C'est l'émission Libre Propos. Au micro, Karine Delamer, à la régie, Simon Martin, et mon invité, le père Emmanuel Blondeau. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Grand Ciel et voici l'émission Libre Propos. Le temps des médias n'est pas celui de l'homme. Aujourd'hui, mon invité, le père Emmanuel Blondeau, va nous donner des clés de lecture pour mieux comprendre notre actualité. Bonjour mon père.
Bonjour Karine.
Père Emmanuel, il faut qu'on discute. Il y a des sujets extrêmement denses qui se sont passés là juste avant les débuts de nos vacances scolaires. Je veux parler de deux points. La loi Claye Leonetti qui a parlé de la fin de vie. On a vu que ça a été un sujet extrêmement sensible. Où finalement, on nous dit que non, ce n'est pas de l'euthanasie, mais c'est une mort plus douce. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui a été caché. On ne comprend pas trop. Il y a un deuxième point aussi que je voudrais aborder avec vous. Je vous le donne, après vous le prenez comme vous pouvez. On apprend que Google Alphabet, qui est une grosse entité que Google a créée pour travailler sur le transhumanisme, est la plus grosse capitalisation boursière de l'année 2015. Donc ça se chiffre en milliards. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dedans? On en est où?
Nous voilà devant des questions éthiques et des questions de bioéthique. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste des questions de bioéthique et ça demanderait de travailler parce qu'il faut entrer dans le détail des processus biologiques. Mais à travers ces questions éthiques, la question qui nous est posée, c'est qu'est-ce que nous comprenons de ce qu'est un homme, ce qu'est une femme aujourd'hui?
Carrément.
Voilà. Alors, j'appelle ça, pour moi, c'est de l'anthropologie. Mmh. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'être humain? Alors, notre société est traversée par différentes conceptions de ce qu'est être un homme. Et c'est des conceptions qui s'entrecroisent, à la fois dans le paysage social, hein, il y a des courants, et puis peut-être aussi à l'intérieur de la tête de chacun d'entre nous. Pour moi, il y a une conception d'un homme pragmatique, hein, une conception d'une anthropologie pragmatique. Et donc, le critère de ce qu'est un homme, c'est ce qui est utile à l'homme, ou ce qui m'est utile aujourd'hui.
Oui, là, c'est très actuel. Là.
Voilà. Et donc, par rapport à la recherche de biologie, par rapport à la question, voilà, qu'est-ce qui est utile aujourd'hui, apparemment?
Utile à l'homme ou l'homme est-il utile?
Voilà. Donc, on va utiliser l'homme pour l'homme, donc avec un... Voilà, on est... Mm. Quelle en est-il de la dignité de l'homme qui va être posée par derrière?
Ouais, c'est la recherche sur l'embryon en Angleterre.
Voilà. Donc qu'est-ce qui est utile pour aujourd'hui, pour les hommes? Et donc si c'est utile, ça peut être bon. Mais la question, elle est pareille au niveau économique. Hein. C'est qu'est-ce qui va me rapporter aujourd'hui? Et si ça ne me rapporte pas, ben c'est pas... Mmh. C'est, voilà. Donc il y a une conception très pragmatique. Voilà. À côté de ça, il y a une autre conception, j'appelle ça existentialiste. C'est-à-dire ce sens profond de la liberté de l'homme. Voilà. Mmh. Un homme qui a sa liberté et qui se construit par lui-même. Et donc l'homme a la liberté de décider de son avenir et de se construire par lui-même. C'est à la fois beau parce que ça vient redire la grandeur de l'être humain, mais en même temps c'est un côté affolant d'un homme seul devant son destin. Et puis, il y a un certain nombre d'autres conceptions d'anthropologie, donc de conception de l'homme. Et ces conceptions de l'homme, nous les recevons, hein, c'est des courants de pensée qui traversent la société et qui viennent interroger sur ces questions-là de ce qu'est l'homme. Alors que pour les chrétiens, la question de l'homme, elle est une question qu'il reçoit.
On n'est plus dans l'existentialisme, là.
On n'est plus dans l'existentialisme, pour moi, voilà, ce qu'est un homme, c'est ce qui définit l'homme, c'est sa relation. Un homme est un être relationnel. Un être relationnel avec son créateur. Voilà. Donc il se reçoit.
Oui, il ne se définit pas tout seul.
Voilà, il ne se définit pas tout seul, il se reçoit. Et puis, il se construit en relation avec son créateur. Il n'est pas tout seul à se construire, il se reçoit. Et puis, c'est aussi un être relationnel avec les autres. Et donc, qui porte le souci du bien commun. Et qui porte particulièrement le souci du petit, du pauvre. Et qui porte le souci de la dignité de l'homme. Non pas un homme qui se donne à lui-même sa propre dignité, mais un homme qui reçoit sa dignité par cette relation fondatrice, fondamentale, avec son créateur, avec Dieu lui-même. Et donc, si je veux savoir qui est l'homme, le chrétien va tourner son regard vers Jésus le Christ. Il est l'homme. L'homme en relation avec Dieu son Père. Il est l'homme qui est en relation avec des hommes qui sont aussi ses frères et ses sœurs. Et puis l'Écriture nous dit, voilà, Jésus est passé en faisant le bien, en cherchant le bien de l'homme. Et donc si on veut comprendre ce qu'est l'homme pour un chrétien, on va prendre le temps de regarder Jésus-Christ, de le contempler, de le connaître, de voir comment il agit, comment, voilà, pour découvrir ce qu'est l'homme. Et cet homme-là, c'est un homme qui est appelé, et qui vit son existence comme une réponse à un appel de Dieu, qui va mener son existence comme une mission de faire, à la manière du Christ, à la suite du Christ, de faire le bien autour de lui. D'avoir l'attention, le souci, dans cette année de la miséricorde, d'avoir cette miséricorde vis-à-vis des autres. Et donc cette conception anthropologique, de cette manière de voir, qui est très marquée par notre foi, elle va rentrer en opposition, oui, en résonance, oui, avec d'autres conceptions. Et donc, par rapport aux questions éthiques que vous avez posées au début, je pense qu'il faut d'abord prendre le temps de comprendre ce qu'est l'homme pour nous, afin de rentrer en dialogue avec d'autres, et de, voilà nous comment on comprend l'homme. Et pour nous, l'homme, ce n'est pas un homme sans limite, non, c'est un homme qui a ses limites, qui a ses fragilités, et qui ne cherche pas forcément toujours à les dépasser, ou qui va les dépasser de l'intérieur, non pas en cherchant des prothèses, voilà. Alors, je dis ça, et j'ai des lunettes, et voilà. Il y a quand même un certain nombre de prothèses, mais qui, voilà, c'est pas un homme qui cherche à se dépasser, ou le dépassement, il va dans l'attention, dans l'amour des autres, et non pas en cherchant à être un super homme, ou plutôt la grandeur de l'homme, c'est cette capacité qu'il a d'aimer, et aimer, c'est ça, vivre. Et quand je dis ça, je pense aux malades.
Oui, moi aussi. Voilà. Oui.
Je pense aux malades. Je pense particulièrement aux vieux prêtres de Saint-Chéron, que j'étais encore avec eux hier. Hein, il y en a qui sont quand même diminués. Mm-hmm. Mais je trouve ça très beau, de la manière dont ils continuent leur vie. Alors certes, ils n'ont plus un ministère actif, ils ne font plus mille choses, mais ils continuent à être capables de prier. Et ça, ils m'en témoignent. Par leur manière de vie, très simple. Hein, ils ne courent pas partout. Hein. Ils viennent nous témoigner que la grandeur de l'homme, elle n'est pas dans les œuvres qu'ils font, elle n'est pas dans leur capacité, mais elle est dans cette manière d'être en relation les uns vis-à-vis d'autres, fraternellement autour d'une table. Alors, je ne dis pas que c'est le paradis de la maison Saint-Chéron. Hein. Comme ils sont tous un peu sourds, voilà, ils ont parfois du mal à s'entendre. Au sens littéral, et parfois aussi à s'entendre, à se comprendre, hein. Mais dans leur cas, l'un va avec l'autre. Mais qu'est-ce que c'est beau quand ils se retrouvent pour célébrer l'Eucharistie. Voilà. Quand le 2 février, ils avaient tous leur robe bien blanche, bien pour célébrer la présentation de Jésus au temple. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Et qu'est-ce que ça vient dire? Quelque chose de la dignité profonde de l'homme. Non pas un homme super, mais un homme simple qui vit de l'amour de Dieu et qui vit pour aimer ses frères. Donc voilà un peu ce que j'avais envie de redire par rapport à ces questions-là. Vous voyez bien que je n'ai pas répondu à la question. Hein.
Ah, vous me rassurez.
Voilà. Parce qu'il faudrait prendre chaque question éthique est une question en elle-même. Mm. Donc il faudrait développer. Mais à travers ça, c'est quelle conception de l'homme nous avons et qui nous permet ainsi de rentrer en débat, en dialogue avec d'autres conceptions et de rappeler la grandeur, la beauté de la manière dont les chrétiens se comprennent.
Et donc l'homme est un homme de sa conception à la fin. Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas utile qu'il n'est plus un homme.
Voilà. Ou ce n'est pas parce qu'il n'est plus dans ce mouvement de se construire par lui-même, hein, parce qu'avec l'âge, on perd des facultés. Non, ce n'est pas parce qu'on se construit par lui-même. Non. Mais on accepte, moi je vois les vieux prêtres qui acceptent plus ou moins facilement leur handicap. Mais quand on entre dans ce chemin de dépossession, et c'est vraiment un chemin de dépossession quand les forces diminuent, y a une grandeur, il y a une beauté. Voilà. Donc on n'est pas dans tenir à tenir d'une certaine manière jusqu'au bout. Non, c'est aller jusqu'au bout dans ce chemin de dépossession qui nous rend capables d'entrer davantage en relation avec les autres, d'accepter cette dépendance, mais non pas une dépendance avilissante, mais une dépendance qui nous permet de reconnaître combien nous avons besoin les uns des autres. J'ai besoin de toi pour vivre, comme toi tu as besoin de moi pour vivre. Et que dans cette relation de dépendance les uns avec les autres, dans cette relation d'attention, d'écoute, d'amour, parce qu'il s'agit de charité à ce moment-là, il y a quelque chose de notre grandeur qui est exprimé. Et il y a quelque chose de notre relation à Dieu qui s'exprime dans cette manière d'être au monde, simplement, même parfois diminué. Je dis ça aujourd'hui, mais je suis en bonne santé. Je ne sais pas comment je vivrai ce temps-là, mais je demande cette grâce à Dieu d'être capable d'accepter ces passages, d'être capable d'accepter ces dépossessions de soi-même pour être entre les mains de Dieu.
Comme on a vu pour Jean-Paul II.
Voilà, comme on a vu pour Jean-Paul II. Moi, c'est ce qui m'avait frappé dans le témoignage de Jean-Paul II de jusqu'au bout de sa vie. Voilà, un témoignage, je dis, bah voilà, ce qui fait la grandeur de l'homme, ce qui fait la sainteté de l'homme, c'est d'être en relation avec son Seigneur jusqu'au bout. De croire et d'aimer jusqu'au bout. Et que on peut toujours aimer dans toute situation.
Merci mon père pour toutes ces précisions et ce recul par rapport à notre actualité si sensible.
Voilà, par rapport à ces questions compliquées, complexes et qu'on n'en finira pas de réfléchir.
Merci mon père, à bientôt sur Radio Grand Ciel.
À bientôt.
One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. It's just no good anymore since you went away. Now I spend my time just making rhymes of yesterday. Because one is the loneliest number that you'll ever do. It's the loneliest number that you'll ever know. Keep them together.